L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
On va parler ce matin des discussions sur l'avenir institutionnel. Et pour revenir sur les rencontres d'EDEVA, vous recevez Virginie Ruffnac.
Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui menait la délégation du Rassemblement aux discussions sur l'avenir institutionnel en compagnie d'Alcide Ponga. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, les discussions se sont donc terminées sans accord. Franchement, vous êtes déçus ou soulagés? Ou les deux?
Les deux, je dirais, parce que nous sommes à la fois déçus, évidemment. Nous aurions aimé offrir aux Calédoniens un accord qui donne des perspectives, et en tout cas dégage l'horizon. Et c'est ce que nous avons défendu, vous savez, avec le Rassemblement depuis plusieurs mois et plusieurs années. Mais en même temps, totalement soulagés, puisque nous venons de déjouer le plan machiavélique de Manuel Valls, en l'occurrence l'indépendance association, et qui était totalement contraire à ce que les Calédoniens avaient choisi. Donc, soulagés, parce que nous avons eu finalement beaucoup de pression et de stress à cette dernière séquence du ministre des Outre-mer.
Alors pour qu'on comprenne bien, à quel moment est-ce que Manuel Valls vous a présenté ce projet d'indépendance association et sous quelle forme il devait mettre un document sur la table, est-ce qu'il l'a fait?
Écoutez, ça a été compliqué parce que quand il est arrivé, alors d'abord pendant les trois premières séquences où nous avons travaillé avec Manuel Valls, qu'il s'agisse de Paris en janvier ou les deux dernières fois ici à Nouméa, à aucun moment il a été question d'indépendance association. Nous avons fait un énorme travail à la fois politique et technique. Les loyalistes et le Rassemblement, nous avons déposé un nombre de notes infinies sur notre vision des choses. Jamais il n'y a eu ce projet d'indépendance association déposée par l'État sur la table, c'était en fait le projet de l'Unipalika. C'est ce que l'Unipalika défendait à chacune de ces des séances plénières devant nous. Et donc, à la quatrième et dernière séquence qui vient donc de s'achever, eh bien, il arrive en bilatéral en nous expliquant que finalement, il va proposer cette indépendance avec le transfert des compétences régaliennes, avec un statut international pour la Nouvelle-Calédonie et avec une nationalité nouvelle qui, en tout cas, n'est pas la nationalité française, donc une seconde nationalité. Et par rapport au document, la question que vous me posez, à ce moment-là, on nous dit qu'on va nous remettre un document lors d'une première séance plénière qui s'est tenue le 5 mai, le vendredi 5 mai, au commissariat. Le 5 mai, aucun document ne nous sera remis. Et le document nous sera remis au dernier moment, le 2 mai, pardon. Et c'est le 5 mai, à l'ouverture du conclave, le lundi 2 mai à Bouraille, que là, nous avons enfin un document qui présente cette indépendance association.
Alors, le ministre, lui, n'emploie pas ce terme d'indépendance association. Et face à la presse, il a même déclaré que son projet était ancré dans la Constitution française et permettait de garder un lien structuré, solide et pérenne entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Alors, qui a raison? Vous n'y croyez pas à ce lien pérenne que lui annonce?
Écoutez, on n'est pas des poulets du jour, hein. Donc il y a quand même une histoire qui nous montre tous les pactes, puisqu'en fait il nous proposait qu'il y ait un pacte d'interdépendance entre la Nouvelle-Calédonie et la France, et que ce pacte d'interdépendance puisse siéger au sein de la Constitution française. Sauf que des pactes, il y en a eu des tonnes qui ont été signés d'ailleurs même au niveau international, et dont certains pays sont désengagés rapidement et qui finalement ont été caduques. Et puis on a l'exemple de la Communauté française par le passé, qui ne présente en fait aucune garantie. Et vous savez, quand vous déléguez les compétences régaliennes, ces compétences régaliennes, c'est vraiment l'exercice, l'engagement de l'État en Nouvelle-Calédonie et qui garantit un État de droit au travers de compétences fondamentales comme la justice, le maintien de l'ordre, la monnaie, la défense. Quand vous transférez ces compétences et que vous dites que la Nouvelle-Calédonie pourra les déléguer, ça vous montre le lien extrêmement fin et minime qu'il peut exister entre la Nouvelle-Calédonie et la France dans un tel contexte. Et donc, il n'y avait aucune garantie, en fait, aucune sécurité. D'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie aurait pu décider à tout moment de ne plus déléguer ses compétences régaliennes. Je crois que vraiment, ce projet était très dangereux. Nous nous sommes opposés de toutes nos forces avec les loyalistes et nous avons véritablement déjoué ce plan qui était sur la table.
Alors, Manuel Valls se dit que deux projets ont été examinés. Et il est très sévère envers le vôtre, envers celui des partisans de la France, en parlant d'un projet de partition qui ne pouvait pas être accepté. Mais votre projet, il a vraiment été discuté, débattu ou pas du tout?
trop peu, très peu pour nous. On a le sentiment finalement qu'on ne nous a pas permis de le défendre loyalement, ce projet qui en rien n'est un projet de partition, puisque vous le savez, nous souhaitions mettre plus de compétences dans les provinces, un maximum de compétences dans les provinces, parce que notre territoire est d'une grande diversité et qu'aujourd'hui nous nous battons au Congrès pour un choix unique que nous n'arrivons pas jamais à poser en termes de fiscalité, en termes de développement, en termes de santé ou autre. Et par conséquent, effectivement, nous avions proposé de venir à un état d'esprit de souplesse institutionnelle, de différenciation provinciale, qu'on laisse le Nord, les îles et le Sud faire les modèles qui leur correspondent, où il y a des choix politiques différents. Mais ça, ça ne veut pas dire l'indépendance d'une des trois provinces. À aucun moment, nous avons proposé, les loyalistes et le Rassemblement, l'indépendance d'une des provinces. Ça n'était pas du tout ça. C'était une grande souplesse institutionnelle. La province des îles est totalement sur terre coutumière. Vous voyez bien que les règles coutumières, elles sont prioritaires. Ils l'intègrent même dans leur code de l'environnement. Nous, la province sud, c'est différent. Eh bien, nous voulions défendre cela. Et finalement, on voit bien que ça a été très rapidement caricaturé par le ministre, finalement qui n'avait qu'un seul cap, qui était ce projet d'indépendance association, qu'il a porté jusqu'au bout. Il n'a pas permis que prospère une autre solution. Et pire que cela, il n'a pas, sur le projet d'indépendance association qu'il a défendu à Bourail, tenté de revenir en arrière. Et c'est ça qui est très choquant pour nous, parce que dès le bilatéral, donc avant le 2 mai, dès le 30 avril, lorsqu'il arrive en bilatéral et qu'il nous explique ce choix, tout de suite, les loyalistes et le Rassemblement, nous lui disons que jamais nous ne signerons ça. Et nous sommes très critiques, voire très combatifs, pour ne pas dire autre chose. Et nous pensions que le 5 mai à Bourail, il allait revenir un peu sur ce qu'il avait promis aux indépendantistes. Et à aucun moment, il ne reviendra d'une virgule sur le projet qu'il a mis sur la table.
Alors justement, c'était à huis clos, hein, donc rien n'est sorti pendant ces trois jours. Mais les autres délégations, comment ont-elles réagi? Parce qu'on sait que la délégation du Rassemblement, celle des loyers, se sont opposées à ce projet d'indépendance d'association. Mais est-ce que les autres ont été favorables à ce projet présenté par Manuel Valls?
En fait, nous étions les seuls à nous y opposer, hein, et nous étions les seuls à nous y opposer, mais nous l'avons fait très fermement, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'accord. Je pense qu'il y avait une volonté qu'on quitte la table, parce que si nous n'étions plus là, ben, il n'y avait que des gens favorables, finalement, à ce projet d'accord. Entre certains qui sont favorables à l'accord, en disant que vaut mieux un accord que rien, même si c'est l'indépendance, ce qui, évidemment, vous comprendrez bien que pour nous, le vrai chaos, ça n'est pas pas d'accord. Le vrai chaos, c'est l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie dans une période où elle a plus besoin de France que jamais. Et puis, du côté des indépendantistes, bah, l'UNI, c'était son projet. Hein, donc, en fait, le ministre a posé le projet de l'UNI sur la table. Et quant à l'UCFNKS, une fois qu'on leur a proposé l'indépendance, ils se sont ralliés à cette solution. Et ça a bloqué, si vous voulez, toute possibilité d'évolution de leur côté. Puisque quand on vous donne ce que vous souhaitez, eh bien, évidemment, ça vous pousse à un immobilisme total. Surtout quand, en plus, on a du côté de l'État, et je l'ai dit moi-même au ministre lors des discussions, je lui ai reproché devant tout le monde de caricaturer notre projet, de ne lui donner aucune chance, en fait. Donc il n'y a eu aucun mouvement, c'était un immobilisme total, des indépendantistes et l'ensemble des autres délégations d'accord avec le projet de l'État, et uniquement le Rassemblement et les loyalistes en opposition.
Mais alors pourtant, il y avait deux jours et demi de discussion prévue, ça a été prolongé le mercredi après-midi. À quel moment est-ce que vous avez fait un constat d'échec et qui l'a fait? Est-ce que c'est le ministre lui-même qui a vu qu'il n'arrivait à rien, ou est-ce que c'est l'une des délégations qui s'est dit on arrête? Comment ça s'est fait concrètement?
Le constat d'échec est arrivé mardi soir quand nous avons affirmer notre énième opposition à ce projet et que nous avons affirmé fortement et très vivement que jamais nous ne signerions un tel projet. À ce moment-là, il y a eu un premier constat d'échec. Le mercredi matin, nous nous sommes dit que peut-être nous pouvions essayer d'avoir une forme d'accord à minima, évidemment pas du tout sur la solution qui était proposée par le ministre qui avait été mise de côté, mais sur un certain nombre d'éléments démocratiques que sont le corps électoral qu'il faut dégeler, la représentation des sièges au Congrès, un certain nombre d'éléments que nous voulions mettre dans le débat et voir si nous pouvions avoir un accord minimal sur ces points. Ce qui a valu d'ailleurs, dans le document du ministre, un ensemble de convergences que nous ne partageons pas toutes, parce que certaines, d'ailleurs, on les a découvertes dans le document, elles n'avaient jamais été évoquées, mais dont certaines figurent, comme notamment la représentation des sièges au Congrès, qu'il faut évoluer, pour laquelle nous avons eu des discussions avec l'ensemble des délégations, et même les indépendantistes ont affirmé qu'ils étaient d'accord pour certains à faire évoluer cette représentation. Et donc nous avons tenté l'accord à minimal, mais les contreparties demandées par les indépendantistes, au travers d'un droit à l'autodétermination qui se décline à nouveau dans un processus, tout cela était pour nous trop important pour pouvoir conclure l'accord, parce que les Calédoniens, encore une fois, ont choisi trois fois de dire non à l'indépendance, et surtout, ils ont déjà voté un grand nombre de fois. Donc pour nous, le droit à l'autodétermination, c'est un épouvantail qui fait fuir la population de Nouvelle-Calédonie.
Alors maintenant, les prochaines échéances, ça va être les élections provinciales. Déjà, est-ce que vous pensez qu'elles vont pouvoir avoir lieu avant la fin novembre, comme c'était prévu à l'origine ?
C'est une bonne question. Vous le savez, nous, on considère... avec l'ensemble des loyalistes, hein, qu'il s'agisse de Gilles Brial, de Sonia Baquez, de Nicolas Metzdorf, Alcy Tonga et moi-même, et Pascal Vittori, que nous avons associé à notre délégation du Rassemblement, nous considérons, et Brieux-Frugier, pardon, que j'oubliais aussi, nous considérons que ces élections ne peuvent pas se tenir sur un corps électoral gelé, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, on le considère, mais pas que nous, puisque le Conseil d'État a dit la même chose en novembre 2023, lorsqu'il rend un avis sur le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Il dit que ce corps électoral ne peut plus exister en l'état. Il dit qu'il faut une réforme constitutionnelle pour modifier ce corps électoral, mais à défaut d'intervention du législateur constitutionnel au niveau national, il dit que le législateur organique peut intervenir. Et donc aujourd'hui, nous, nous sommes lucides. Nous savons bien que la révision constitutionnelle est assez loin derrière nous, mais nous considérons que par voie organique, par loi organique, vous savez, pour les Calédoniens, est une majorité beaucoup plus limitée, une majorité simple, concernant aux 3/5 du congrès de Versailles sur la Constitution française, eh bien, peut faire des aménagements de ce corps électoral. Aujourd'hui, les natifs ne sont exclus, les conjoints de Calédoniens qui sont partie prenante de familles calédoniennes ne votent pas non plus. Tout cela est vraiment totalement...
On avait l'impression, plus dans le début, dans les premières discussions qui ont lieu dans cette dernière séquence, qu'il y avait une évolution des indépendantistes sur ce corps électoral, que ils acceptaient une certaine ouverture. Est-ce que vous pensez qu'il faut tout reprendre à zéro, ou qu'effectivement ils vont accepter certains aménagements de ce corps électoral ?
Écoutez, ce que je regrette beaucoup sur un certain nombre de sujets, c'est que le ministre a même fermé la porte à faire des évolutions sur les points sur lesquels nous pouvions être d'accord. Et en l'occurrence, ce corps électoral, nous avions trouvé des solutions, des mécanismes qui correspondaient aussi à une volonté, une aspiration des indépendantistes, c'est qu'il n'y ait pas que la durée, mais qu'il y ait des éléments d'engagement en Nouvelle-Calédonie de ceux qui devaient acquérir cette citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. On avait trouvé des systèmes permettant de ne pas trop laisser, des citoyens calédoniens, parce que pour moi, les gens qui ont investi et fondé leur vie en Nouvelle-Calédonie sont des citoyens calédoniens, trop de citoyens calédoniens au bord du chemin, enfin trop de personnes en dehors de cette citoyenneté. Sur ça, nous avions trouvé des compromis. Sur la représentation, nous étions en voie de compromis, et il a fermé la porte en disant, de toute façon, même les convergences, on ne les fait pas évoluer s'il n'y a pas un accord global. Donc il a fermé la porte à toute évolution, et en fait la seule chose qu'il a mis sur la table en Nouvelle-Calédonie, c'est l'indépendance et l'indépendance association, et en dehors de ça, point de salut. Moi, je suis très, très contrariée de cela. Donc, pour vous répondre à votre question, nous verrons bien. Il y a un comité de suivi qui est censé être mis en œuvre pour continuer le dialogue. Vous savez, Rassemblement et Loyalistes, nous avons toujours été dans le dialogue. Nous n'avons jamais boudé la table des discussions. Nous avons proposé un grand nombre de choses sur la table. D'ailleurs, le seul projet face à l'indépendance proposé par le ministre et les indépendantistes, c'est le nôtre. C'est celui du Rassemblement et des Loyalistes. Il n'y en a pas d'autres qui sont concurrents sur la table. Nous sommes les seuls à avoir fait une contre-proposition. Donc nous verrons bien, et j'espère qu'ils ne seront pas, les indépendantistes, dans la doctrine sur ce sujet. D'ailleurs, certains des leurs sont privés du droit de vote. Certains des leurs sont privés du droit de vote par ce droit inique d'exclusion de la citoyenneté calédonienne.
Donc on attend le dépôt d'une proposition de loi organique éventuellement par le député Nicolas Mézenstorff. Hein.
Oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut qu'il soit accompagné, pourquoi pas par le gouvernement si nous arrivons à convaincre l'État. Il faut convaincre le président de la République que cette évolution est nécessaire. Nous sommes aussi représentés par des groupes politiques respectifs, nous les Républicains, qui ont un groupe important au Sénat, et puis le groupe de Nicolas Mézenstorff, qui représente finalement le président de la République, est aussi présent. Il faut que nous fassions un travail.
C'est la question que se posent les Calédoniens et qui s'est posée pendant ces derniers jours. Est-ce que la proposition défendue par Manuel Valls est soutenue au plus haut niveau de l'État, comme on dit? Quels sont les contacts que vous avez eus, vous, avec les partis métropolitains, et comment est-ce qu'ils réagissent à ce projet déposé par Manuel Valls?
Écoutez, contacts très nombreux, parce que quand en bilatéral Manuel Valls nous propose son projet, déjà nous avons un électrochoc, mais le double électrochoc, c'est lorsqu'il nous dit qu'il a le soutien des instances nationales pour poser ce projet. Alors là, on commence véritablement à s'inquiéter, et donc évidemment, nous contactons respectivement nos différents représentants à Paris. Évidemment, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, que je contacte assez rapidement, n'est absolument pas d'accord avec ce projet et n'a jamais prôné l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Il le dit librement d'ailleurs, puisqu'il s'est exprimé notamment dans le Figaro sur ce sujet. Et il a d'ailleurs des échanges avec Manuel Valls pour lui affirmer son désaccord. Ensuite, le président Larcher, que je contacte également rapidement, s'est exprimé quand il est venu en Nouvelle-Calédonie. Il a lui-même parlé de souveraineté partagée, mais la différence, c'est que c'était dans la France. Il l'a exprimé au Congrès de la Calédonie devant tous les élus. Donc on est dans la France. Donc évidemment, le président du Sénat ne peut pas partager une solution en dehors de la République française, puisqu'il vient en Nouvelle-Calédonie l'année dernière et dit aux Calédoniens qu'il veut une solution dans la France, même si on travaille sur cette fameuse souveraineté partagée, qui est déjà d'ailleurs le cas dans le cadre de l'accord de Nouméa dans lequel nous sommes. Et puis ensuite, l'ensemble des autres élus que nous connaissons et que je ne citerai pas, mais nous comprenons vite que finalement, c'est une démarche, enfin, en tout cas, nous l'espérons, relativement individuelle, en tout cas, je dirais peut-être pas, enfin, isolée du ministre des Outre-mer. Et j'espère que des voix s'élèveront à Paris. Un conseil des ministres se tiendra mercredi et il faudra que le ministre des Outre-mer aussi rende un peu des comptes de ce qu'il a fait en Nouvelle-Calédonie, car c'est grave. C'est grave parce qu'une fois que vous proposez aux indépendantistes l'indépendance et que c'est une parole d'État qui porte cela, eh bien, c'est compliqué derrière. C'est très compliqué.
Un dernier mot, Virginie Jean-Marc, là, qui concerne un autre domaine, un peu celui de votre parti politique, avec le week-end prochain, l'élection du président des LR. On sait que le Rassemblement est affilié aux Républicains. Ça se passe comment? Vous allez suivre ça de près?
Oui, bien sûr, nous l'organisons de longue date. Donc, au final, c'est 1168 électeurs adhérents du Rassemblement LR, donc les Républicains, qui pourront en Nouvelle-Calédonie participer à cette élection importante qui départagera donc le leader entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, celui qui sera le leader de la droite républicaine française. C'est important et nous avons deux personnalités de grande qualité et qui incarnent une droite totalement claire. Et par conséquent, évidemment, un bureau de vote se tiendra à la permanence du Rassemblement, mais le vote est électronique. Mais nous tenons un bureau de vote pour accompagner et aider ceux et celles qui auraient des difficultés pour effectuer ce vote. Il y aura aussi un bureau de vote au Mont d'Or. Par conséquent, nous serons très mobilisés dimanche, puisque c'est le 18 pour nous, lors d'une journée entière de vote en Nouvelle-Calédonie. Lundi, nous serons fixés sur qui sera le nouveau président de notre famille politique, les Républicains.
Et officiellement, vous ne prenez pas parti? Il y a deux comités de soutien, un pour Laurent Wauquiez, un pour Bruno Retailleau.
Oui, nous avons souhaité ne pas affirmer notre choix. Évidemment, nous avons un choix, chacun. Mais nous avons, avec Alcide Ponga, souhaité ne pas affirmer de choix pour ne pas nous dire que nous biaisons l'élection et surtout que nous l'organisons. Donc, les électeurs, les adhérents ont une totale liberté de choix sur le sujet.
Merci Virginie Ruffnacq, chef de groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et chef de la délégation sur les discussions pour l'avenir institutionnel.
Merci à vous.